système, pas le climat.
Le système, pas le climat.
Changeons le système, pas le climat.
Alors, durant la coalition du sommet citoyen pour le climat, je me suis rendu à un atelier organisé par la fondation Rosa Luxembourg, une fondation américaine dont la thématique était « Pouvoir au peuple, comment les syndicats et les mouvements sociaux peuvent-ils connecter les mesures contre l'austérité et pour la justice climatique ?» Alors, dans un premier temps, vous allez entendre une représentante des syndicats sud-coréens. Elle va nous expliquer un petit peu comment est la situation pour les syndicalistes en Corée du Sud, une façon originale de présenter la situation, d'autant que la représentante de la Corée du Sud est invitée à Paris pour cette COP21. Elle y est en ce moment avec des propositions très surprenantes. Dans un second temps, nous écouterons un représentant des organisations syndicales aux Philippines qui va nous expliquer son combat pour un maintien de l'énergie électrique au sein de coopératives en zone rurale et comment, ensemble, avec les syndicalistes, avec les mouvements sociaux, avec les travailleurs, on peut se battre pour récupérer une énergie pour tous et éviter les privatisations. Je suis le directeur des affaires internationales pour le syndicat des transports publics et des services publics en Corée du Sud. Dans notre syndicat, il y a à peu près 160 000 membres qui se trouvent répartis dans plusieurs industries, dont l'énergie et également des salariés dans le transport public et dans le transport privé. Vous trouverez plein d'informations sur les flyers qui se trouvent sur vos tables. Je souhaiterais commencer ma présentation par quatre différentes images que j'aimerais vous montrer, mais je vais plutôt vous parler de quatre différentes dates qui sont importantes. La première date, c'est le 16 avril 2014. Ce jour, un ferry qui s'appelait le Sewa a coulé sur les côtes de Corée du Sud et plus de 300 personnes sont mortes dans ce naufrage, dont la plupart étaient des enfants scolarisés. La deuxième date importante dont je voudrais vous parler, c'est le 14 novembre 2015. C'était donc il y a un mois à peu près. Ce jour-là, 100 000 manifestants, des fermiers, manifestaient dans les rues. Les fermiers protestaient contre le TPP, le Trans-Pacific Partnership, c'est le TAFTA qui se trouve du côté du Pacifique et pas de l'Atlantique. Et également des travailleurs qui protestaient contre la réforme du code de travail. Et la police a utilisé des gaz lacrymogènes, de la capsine. Et il y a eu beaucoup. Un fermier a été blessé gravement et il y a eu également une cinquantaine d'arrestations et également d'autres blessés. La troisième date, c'est le 21 novembre. Ce jour-là, des centaines de policiers sont intervenus dans le KPTU, le syndicat dans lequel je travaille. Ils ont pris nos serveurs, ils ont pris toute une liste de membres de syndicalistes. Et la dernière date, c'est le 30 novembre dernier, date à laquelle la présidente de Corée du Sud est venue ici à Paris pendant la COP21 pour promettre une diminution de 35% des émissions pour l'année 2030. Même si ces quatre faits semblent dissociés, en fait, je vais vous montrer en quoi ils sont reliés. Ce qui les réunit, c'est qu'ils sont tous les quatre le produit d'une crise économique dans laquelle la croissance semble importante et les capitalistes et le gouvernement cherchent des moyens pour faire des bénéfices rapides dans un contexte de très grande inégalité et l'idée de ressembler à l'économie chinoise dans laquelle les taux de profit sont très importants.
And the solutions that the government is putting forward to deal with this drop in profits.
La solution que le gouvernement a trouvé, enfin la meilleure façon de vraiment trouver pour faire profiter encore plus les profits aux capitalistes, c'est donc c'est des mesures politiques qui mettent en avant ces profits faramineux aux dépens du peuple, de la vie des gens, et malheureusement aux dépens de la vie de la planète. Une de ces mesures politiques est d'avoir accéléré la privatisation pour créer plus d'espace de profit pour les capitaux et également rendre le travail plus flexible dans le but de le rendre encore moins cher et donc de faire des profits à des termes encore plus courts et en général donc ça aboutit vraiment, le but c'est la dérégulation des différents marchés du travail. Ce sont ces politiques que je souhaitais parler dans la date du 16 avril et de l'accident du ferry. Le ferry qui a coulé le 16 avril 2014 est donc le résultat d'une dérégulation. Après les investigations des instituts de sécurité, on a pu voir que le ferry devait être réformé. Il a été construit d'une façon très mauvaise, incompatible avec la sécurité qui lui permettait de transporter plus de passagers, donc il était très instable. L'ensemble du bateau était en surpoids, l'équipe d'encadrement était des vacataires, trop peu d'entraînement. Ils avaient des contrats temporaires et ils étaient donc incapables de faire le job. L'investigation n'est pas terminée, les enquêtes se poursuivent, mais on peut dès aujourd'hui avoir une idée des causes de ce terrible drame. Le bateau s'est retourné très rapidement. Le staff à bord n'était pas assez entraîné, même les équipes de solfage, qui sont privatisées, ne sont pas assez entraînées. Les plongeurs qui ont aidé pour le sauvetage n'étaient pas assez entraînés. Et c'est de cette façon qu'on a perdu 270 enfants. Voici une des expressions des conséquences dramatiques de la dérégulation et de la privatisation en Corée du Sud. Je vais au 14 novembre. Alors, je suis désolé, je dois mettre un mot de passe très compliqué avec un haut niveau de sécurité sur mon téléphone portable parce que les policiers arrêtent les syndicalistes et récupèrent les mots de passe dans les téléphones et donc je mets des mots de passe compliqués, j'en ai besoin pour lire mes notes, donc je prends un peu de temps pour mettre mon mot de passe. Je vais au 14 novembre. La réforme du marché du travail du gouvernement a créé un mouvement de lutte des travailleurs. Nous n'avons pas vraiment d'austérité en Corée du Sud, mais la réforme du marché du travail a été voulue par le patronat qui disait que la protection des travailleurs est trop élevée et que c'était inefficient et qu'il ne peut pas en profiter et donc il faut réduire ces protections. Alors bien sûr que ces protections sont issues de luttes de travailleurs et de syndicalistes à la suite d'accords obtenus après des années de lutte et depuis que le gouvernement a essayé de changer les règles. Voilà, il a changé ses règles pour les salariés, les indépendants. Il a officialisé l'usage des intérimaires dans tous les secteurs de l'économie, en particulier dans les manufactures, mais dans, ça a touché tous les secteurs. Dans le même temps, on a réduit les heures supplémentaires et on réduit la sécurité de l'emploi, et en particulier pour les intérimaires. Et donc, les syndicats se sont battus contre toutes ces mesures antisociales. Et c'est pourquoi il y a eu 100 000 personnes qui ont manifesté et c'était encore les salariés de trinquer les aménagements du gouvernement. À quoi ressemble cette politique dans le secteur de l'énergie ? Alors, une fois de plus, utiliser l'énergie comme source de profit à court terme, le gouvernement l'a dérégulé. Nous avons des entreprises publiques, mais le gouvernement les a dérégulé ce marché pour amener plus de producteurs d'énergie privée et donc également plus de distributeurs d'énergie privée pour augmenter. Et donc ces distributeurs et ces producteurs augmentent leur capacité et ils construisent de nouvelles centrales, des centrales à charbon. Une nouvelle centrale vient d'être inaugurée par Samsung qui fait 200 mégawatts. Et pour baisser le prix de l'énergie, pour donner accès plus facilement à l'industrie, le gouvernement se met à l'énergie nucléaire. Et donc, une nouvelle fois, notre gouvernement prend des risques pour les gens et pour l'environnement. Et on le sait, comme on l'a vu au Japon, à Fukushima, le nucléaire comporte des risques de sûreté importants. Et ça m'amène à une troisième date, c'est le jour où Park Geun-hye, la présidente de Corée du Sud, est venue présenter à Paris une baisse des émissions de 37% d'ici à 2030. Et ça, évidemment, c'est pas du tout raccord avec l'extension des capacités énergétiques dont je viens de vous parler, que ce sont les centrales à charbon ou au niveau des centrales nucléaires. Donc ce chiffre est complètement faux. Du point de vue de la communauté internationale, la Corée du Sud montre un faux visage. Elle floue tout le monde. L'image de la Corée du Sud est une image de pays émergent. C'est une démocratie. Pourtant, si on revient au 21 novembre, lorsque nous avons combattu l'austérité ou les réformes du travail contre les privatisations, le mouvement syndical a été très réprimé. Les policiers sont rentrés chez nous, dans notre syndicat, dans notre local, plusieurs fois, dans notre bureau deux fois, et 15 locaux syndicalistes de syndicats ont été perquisitionnés, des dossiers ont été montés sur plus de 600 syndicalistes et quelques dizaines de syndicalistes sont en prison et même certains téléphones sont surveillés aujourd'hui. C'est ça, la réalité de la Corée du Sud. Aujourd'hui, c'est une réalité bien différente de celle que donne Park Geun-hye, d'une démocratie qui défend les libertés et qui est environnementalement amie, qui défend l'environnement. C'est pourquoi j'ai souhaité aborder ces dates pour montrer ce que nous vivons et ce à quoi nous faisons face. Comment combattre dans cette situation ? Nous avons des problèmes systémiques qui sont liés. Ça a déjà été dit, mais ce qu'il nous faut pour combattre, c'est redonner le pouvoir depuis là-bas. C'est une situation extrêmement difficile en Corée du Sud. Je n'ai pas de solution directe, de réponse pour aboutir à ce combat. Mais je vais être honnête et dire que les syndicats en Corée du Sud, maintenant, le changement climatique, ce n'est pas vraiment dans notre tête. On ne peut pas l'être, on ne peut pas être ouvert à cette... être réceptif à cette idée, car ce qu'on a dans la tête, c'est la liberté pour nos camarades, pour le mouvement syndical. Nous essayons de revenir en arrière, mais dans l'idée de combattre, et de combattre, de reprendre le pouvoir, il faut voir au-delà de la lutte immédiate. Car nous ne sommes pas assez forts pour combattre cette force massive importante en face de nous. Nous avons besoin de tout le monde, de toutes les sociétés. Nous avons besoin d'un mouvement international. Et je pense que le seul moyen de construire ça, ce n'est pas uniquement de s'opposer pour retrouver nos droits ou s'opposer à la réforme du marché du travail ou à l'austérité, mais il faut voir plus loin, une vision des travailleurs, des syndicalistes ensemble et d'autres formes d'organisation qui ne se rendent jamais. Et c'est une question de contrôle démocratique, d'organisation démocratique de la politique et même d'honneur social pour survivre. Alors, qu'est-ce que cela signifie dans le secteur de l'énergie ? Alors, une fois de plus, je n'ai pas de propositions concrètes, mais nous avons des entreprises publiques d'énergie qui gèrent énormément de profits, d'argent, qui investissent beaucoup à travers les maires, qui sont des multinationales et qui appartiennent au gouvernement, mais qui ne sont pas sous contrôle démocratique. Et si on veut parler de transition, le fait que nous avons besoin d'avoir une voix, la voix des syndicats autour de la table. Et pour avoir cette voix autour de la table, nous avons besoin de devenir plus forts. Mais pour être plus forts, nous devons dire que plutôt que de prendre ces profits et agir comme des compagnies privées, nous devrions prendre les profits et les réinvestir dans les énergies renouvelables en Corée. Donc, je pense qu'il est important pour nous d'être à la table. Et nous devons construire notre pouvoir, et pour ça, nous devons commencer à avoir une conversation, une discussion. Nous avons besoin de la société civile, on a besoin des syndicalistes, et de réfléchir à ce que signifie pour nous le contrôle démocratique, de ce qu'est l'honnêteté sociale. Et nous aurons une vision commune de ce que peut être l'énergie et combattre ensemble pour cette idée. Mais il faut combattre ensemble. Mais si ma vision n'est pas complètement concrète et claire actuellement, mais je voudrais terminer par un appel. Nous devons construire ensemble, nous devons lutter ensemble, combattre contre ce gouvernement dictatorial en Corée, dictatorial contre les mouvements syndicalistes. J'aimerais contribuer à la discussion par en vous montrant une facette de ce qu'une politique d'ajustement structurel peut faire aux Philippines et comment nous l'avons éprouvé. Je pense que la pire chose qui soit arrivée par les plans d'ajustement structurels aux Philippines est la privatisation de l'industrie de l'énergie. Nous avons essayé de revenir en arrière, nous essayons de combattre ça. Je veux dire que nous nous sommes battus pendant 5 ans pour faire reculer le passage de la loi. Mais malheureusement, nous avons perdu ce combat en 2001, mais nous continuons à nous battre. Mais pourquoi est-ce que nous avons gagné ce combat politiquement ? Parce que contrairement à toutes les promesses faites au peuple pour lui faire accepter la privatisation, nous avons aujourd'hui l'électricité la plus chère du monde. Nous sommes dans le top 5 avec l'électricité le plus chère du monde. En Asie, on est numéro 1, on est number one. On a des prix de classe affaires dans une économie de low cost. L'électricité est plus chère qu'au Japon. Vous vous rendez compte de ça? C'est incroyable. C'est la raison pour laquelle... Qu'est-ce qui se passe? Mon téléphone a le même problème que la camarade de Corée. En fait, aux Philippines, peu de gens de l'élite économiste participent à l'action et vont dans l'industrie de l'énergie, car c'est la seule industrie aux Philippines, à part la drogue et le kidnapping avec rançon, qui est un business déjà occupé par les militaires. À part ça, c'est la seule industrie aux Philippines où il y a zéro risque pour les investisseurs. Zéro risque. S'ils perdent des profits, ils le reportent sur les taxes. S'ils perdent de l'argent à cause des fluctuations monétaires, ils le reportent sur le consommateur. S'ils ont besoin de plus d'investissements, d'acheter des machines, ils n'ont qu'à nous demander, à nous, consommateurs, de payer pour cela. Il n'y a zéro risque, il n'y a aucun risque. Donc si vous voulez faire de l'argent, venez aux Philippines et faites des affaires dans l'industrie énergétique, vous serez très riche. Le gouvernement a complètement raté dans cette industrie et il a réussi à transformer un monopole naturel en un oligopole privé en seulement quelques années. Donc nous avons donc failli dans notre mission pour stopper la privatisation, mais nous continuons à nous battre et nous avons un très bon exemple de ce combat. Nous avons essayé de protéger, de créer une coopérative d'électricité, de devenir, pour éviter qu'elle devienne une corporation, une entreprise. Aux Philippines, dans les campagnes, les coopératives électriques sont aidées par l'État, dont le rôle est d'apporter l'électricité partout. Et l'État avait réussi à apporter 90% d'électricité à nos compatriotes. Après 14 ans de dépenses et de millions de pesos, maintenant, cette distribution est aux mains des entreprises privées. Nous avons eu le temps de nous préparer dans certains lieux. Pendant les 5 ans, on a développé une communauté, un syndicat, nous sommes plus forts, on était très forts, avec des groupes de consommateurs, avec des mouvements sociaux, dans l'idée d'être prêts le jour où la privatisation arrivera. Et finalement, la privatisation est arrivée il y a 3 ans. Et le gouvernement savait que nous avions un très bon programme pour cette coopérative, que nous étions très forts, mais il a quand même permis aux investisseurs de rentrer dans ce marché et ils ont organisé des élections, mais aux Philippines, ce sont des gens très pauvres qui sont des gens pauvres, donc qui sont achetés par le gouvernement. Et il est facile de les acheter. Un gouvernement pour le peuple, acheté par le peuple. Et donc il est facile de les acheter. Malheureusement, les gens ont voté oui. Et ils ont voté oui à la privatisation. Mais cette opération a complètement échoué. Le matériel de la transmission est très mauvaise. Les infrastructures ne sont pas entretenues. Donc le rendement est vraiment très, très mauvais.
Even if we do win, and I have no doubt we will win.
Si nous gagnons, et nous gagnerons parce que la coopérative est en marche. La communauté n'est pas seulement capable de connecter les gens à ceux qui sont coupés. À chaque fois que la compagnie coupe l'électricité à quelqu'un ou à un quartier, nos gars, nos gens, nos membres, les syndicalistes en grève contre la privatisation vont reconnecter les gens. Illégalement, bien sûr, mais ce sont les Philippines. Alors les choses illégales sont parfois amusantes à faire. Une fois reconnectée, l'entreprise revient, recoupe à nouveau, et les gars du syndicat reviennent et reconnectent. Mais la fois d'après, lorsque la compagnie revient coupée, c'est la communauté elle-même qui empêche la coupure et qui défend ces lignes électriques. Tout le monde défend. Il ne coupe pas. Les gens se mettent ensemble et empêchent l'entreprise de couper. C'est l'ensemble de la communauté qui défend. Donc on a gagné politiquement. Mon point final est le suivant. Même si nous gagnons, le combat n'est pas terminé. La coopérative est un des points de cette victoire, mais le point principal et comment restructurer cette industrie et la transformer avec les énergies renouvelables. C'est là le plus gros combat. Car dans ce combat, nous avons besoin des ressources de notre pays et donc du gouvernement. Mais malheureusement, nous ne pouvons pas avoir ces ressources tant que nous ne sommes pas au gouvernement. Et le gouvernement fonctionne toujours avec la classe dominante. Et je ne pense pas que le mouvement des travailleurs puisse gagner tout seul. Il doit travailler avec d'autres mouvements sociaux dans le but de gagner du pouvoir. Du pouvoir qui ne sert pas seulement à mieux organiser les luttes. Il faut avoir du pouvoir. On doit aussi susciter de l'imagination des gens pour leur dire qu'un meilleur monde est possible et qu'ils feront partie à part entière. Comment nommer ce monde? Certains l'appellent la démocratie radicale, moi je l'appelle le socialisme. Je pense réellement que cette forme de socialisme est démocratique et mobilise les gens dans toutes les périodes de l'histoire.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Parler d'égalité, et comme des cons les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, 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 on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité. Quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants. Y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. notre idéal bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien.